Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi à la radio, sur RMC, à la télé, RMC Story, canal 23 de la TNT. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous avez quand même réussi à trouver un petit peu de frais dans cette atmosphère surchauffée. En tout cas, on va essayer de vous donner un petit peu de bonheur pendant ces 3 heures. Grâce tout d'abord à Charles Magnin. Bonjour Charles.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Il y a également sur le plateau aujourd'hui la journaliste indépendante de Dijon, Emmanuel Dancourt. Bonjour Emma.
Bonjour, je préférais le plateau climatisé à Dijon, les rues de Dijon.
Ouais, ici, hein. il fait limite froid, voilà,
oui, c'est
comme
vrai.
Quoi la vie est mal faite.
C'est vrai.
Nous sommes également avec le journaliste et écrivain Fred Hermel. Bonjour Fred.
Bonjour Estelle.
Et puis la légende vivante de la télévision. C'est Jacques Legros qui avait une veste. Voilà, on ne se refait pas, Jacques.
Non, mais je sais qu'ici il fait froid.
Oui, c'est vrai. Voilà, mais non, Jacques qui ne vient jamais en bras de chemise, quoi, qui ne vient jamais bras nus.
Jamais.
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 Il y a une élégance, une distinction. Hein,
ah. Bon, nous, on n'est pas des élégants ni distingués.
On n'est pas des légendes non plus.
Non, mais
je vous tolère. Hein,
c'est exactement ce que je voulais dire. Dans un instant, la France qui suffoque, adapter les horaires, tout climatiser, faire la sieste, faut-il vivre à l'espagnol? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant. Et vous pouvez bien sûr réagir au 3216 et sur le WhatsApp, Charles.
Le 06 12 424 424. Tiens, ça fait déjà réagir Max hein, sur WhatsApp qui nous dit mais faire la sieste tranquille avec la clim à l'ombre, ça existe déjà en France, ça s'appelle employé de mairie. Voilà ce que. Bon, voilà, Max qui en rigole, mais j'attends vos témoignages un peu plus sérieux sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Midi et demi, un collectif qui appelle à boycotter l'IA. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à vous passer de l'intelligence artificielle? Et puis 13h30, cette info qui est tombée ce matin, Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, renvoyé en procès pour viol, le PSG doit-il continuer à le faire jouer? Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez, 32-16.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on démarre Estelle Midi tout de suite avec l'actualité du jour et c'est bien sûr la vague de chaleur qui fait suffoquer une très grande partie de la France. Plus d'un Français sur deux est concerné par la vigilance canicule orange. Il va faire 35 degrés à Paris cet après-midi, 36 en Bourgogne, 37 dans le Grand Est, le thermomètre qui pourrait grimper jusqu'à 41 degrés ce week-end. Et pour le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, il va falloir adapter nos modes de vie. Écoutez.
C'est intéressant effectivement de regarder comment ça se pratique culturellement, historiquement dans des pays comme l'Espagne, notamment l'Espagne, le sud de l'Espagne, il fait très chaud, comment ils pratiquent. Effectivement, on voit bien que l'idée est toujours la même, c'est se protéger pendant les horaires les plus chauds. Alors eux, c'est vraiment installé dans leur rythme de vie. C'est l'idée dans les entreprises, on ne le fait pas dans la société en général.
Est-ce que notre société doit s'adapter?
Peut-être, si vraiment on est destiné à avoir des horaires andalous de manière structurelle, il faut peut-être faire comme les andalous. Mais effectivement, il y a un sujet de société, comment la société globalement s'organise. Et ensuite, tout de suite et sans attendre, dans le monde du travail, il faut prendre des mesures de précaution pour protéger la santé des travailleurs. Bien.
Alors Jean-Pierre Farandou qui évoque les horaires andalous, ça se passe comment en Espagne justement, Charles?
Alors c'est un tout autre rythme de vie. Dans plusieurs régions d'Espagne, la journée de travail est encore coupée en deux avec une grande pause de 2 ou 3 heures en milieu de journée. Alors attention au mythe de la sieste, en fait celui de minorité d'Espagnols déclare faire la sieste en semaine. En revanche, leur rythme de sommeil est décalé. Les Espagnols dorment moins que le reste des Européens. Plus de 60% des Espagnols vont au lit après 23 heures, plutôt 1 heure du matin en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins. En période de forte chaleur, beaucoup d'entreprises adaptent leurs horaires et pratiquent ce qu'on appelle la journée continue avec une arrivée au bureau très tôt à 7h ou 8h du matin puis travaillent jusqu'à 14h sans pause, une manière d'éviter de travailler aux heures les plus chaudes. Idem dans les commerces qui baissent le rideau entre 14h et 17h, des rues désertées pendant les heures les plus étouffantes. En revanche, l'activité est repoussée plus tard dans la soirée, des restaurants qui servent au-delà de minuit. Illustration concrète de ce rythme de vie décalé en Espagne, les JT sont diffusés à 15h et 21h et les programmes en prime time débutent à 22h30.
Alors, horaire de travail, sieste, ouverture des commerces, faut-il vivre à l'espagnol? Et évidemment, je me tourne vers vous, Fred Hermel, parce que vous avez vécu pendant 25 ans en Espagne. Il fait plus chaud, enfin habituellement, en Espagne qu'en France. Et est-ce qu'on souffre de la chaleur en Espagne comme ici?
Non, parce qu'on est adapté depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, à Séville, il faisait déjà très très chaud. Donc tout est organisé. Et même les rues. Vous voyez, en Andalousie, sont toutes petites.
C'est vrai.
Pour qu'il y ait beaucoup de d'ombre. Voilà, c'est-à-dire que c'est un pays qui a été construit, mais déjà du temps de la colonisation arabe, qui a duré près du siècle. C'était organisé, comme dans les comme
il y a
dans
pas
le
de grandes baies vitrées par exemple vous allez à Séville ou à Grenade,
bien entendu. Après les horaires ça fait partie de la culture espagnole et c'est vrai qu'on dort peu. Ça m'a beaucoup de nostalgie dans le brillant exposé de Charles parce que c'est exactement ça en fait. Il y a une façon, on peut pas du jour au lendemain changer de culture, on va pas devenir espagnol.
J'allais vous dire, est-ce qu'on pourrait s'adapter et vivre à l'espagnol en fait?
Non, parce que c'est par exemple encore je vais te dire à la Corogne en Galice, tu ne vis pas pareil qu'à Séville.
D'accord.
Parce que la Corogne, c'est quasiment, c'est de la Bretagne hein, en fait, c'est celte. Hein, donc voilà, c'est pas exactement la même vie, mais c'est vrai que dans même la culture espagnole est en train d'évoluer avec la clim, par exemple. Il y a quand même l'horaire intensif comme continu. Il se fait surtout dans l'administration. Ça, on n'y touche pas. Puis ce sont des acquis sociaux du 15 juin au 15 septembre. C'est
comme
ça.
Termine pas à 22h à la poste espagnole.
Mais c'est vrai qu'on commence très tôt. On commence à 7h. Moi, j'avais mes fonctionnaires. Et à 7h, il est au boulot. Et jusqu'à l'été, voilà. Mais dans les entreprises, maintenant, avec l'air conditionné, la journée continue. Elle est plus de mise hein, en fait. Hein. C'est vraiment là où c'est difficile de faire bouger les choses. Mais c'est vrai que les magasins, par exemple, c'est dans la culture, on fait pas ses courses à 15h. Non, parce qu'à 15h on mange. Voilà, donc c'est bah oui, voilà. Non, mais c'est
mais
c'est
faut imaginer ça. En France, si tout fermé à 14-15h.
C'est le cas dans certaines villes. Hein.
Oui, oui, mais
il y a aucun supermarché qui ferme l'après-midi.
Non, mais les
supermarchés sont ouverts en Espagne aussi. Mais les petits commerces. Oui, mais par exemple en France. Quel syndicat accepterait que dans une boutique, on bosse jusqu'à 21h ou 21h30?
Bah, si tu commences, si t'as une grande pause,
Je pense que ça passe pas, hein, en France.
Non. D'accord.
Ça passe pas d'un point de vue syndical, ça passe jamais.
Jacques Legros, est-ce que c'est la première chose à faire? Non, ça coûte pas grand chose. Adapter nos horaires, faire que, par exemple, effectivement, les magasins ouvrent à 8h, mais il y a une grande pause, et puis ensuite, ferme plutôt à 21h, qu'on change les prime time, tiens, les horaires des journaux à la
JT
télévision.
De 15h. Ouais. Déjà que ça recule régulièrement.
Oui,
mais l'heure des prime time, j'entends. D'abord, je suis ravi de rencontrer Emmanuel.
Très bien.
Ça fait très plaisir, parce que c'est la première fois. Oui. Bon, Fred, lui, je le connais que trop.
Oui, et... pour moi, tu
j'ai demandé à venir vendredi pour être avec toi, Jacques.
Bon, est-ce qu'on peut se concentrer
C'était quoi la question?
La question, les horaires à l'espagnol.
Franchement, ça n'est plus une question de climatiseur. Ça n'est plus, Yves, je pense, moi, très sincèrement, on annonce dans les 50 degrés d'ici à 2050. Oui. C'est demain, 2050. Mmh. Et 50 degrés, ce n'est pas vivable. Ce n'est pas supportable, même avec la clim à la maison ou au bureau. Donc il va falloir avoir toute une réorganisation à l'école, dans les bureaux, dans les transports, enfin partout, afin d'adapter effectivement et les horaires et les matériaux de construction pour isoler davantage. Enfin, il y a toute une refonte à voir de notre société, en sachant que...
Et la clim, peut-être, ne serait-ce que dans les écoles.
Oui, non, mais ça, c'est le minimum.
Mais ça coûte 5 milliards, donc en fait, c'est le minimum,
je n'ai pas dit qu'on avait les moyens de le faire. Je dis qu'on sera contraint de se poser les bonnes questions face à cette canicule qui va se reproduire tous les ans et en s'aggravant qui plus est.
Alors, tu parlais de 2050, Jacques. Là, aujourd'hui, Météo France annonce qu'à Paris, cet après-midi, la température ressentie, elle va être de 47 degrés. Donc, en fait,
on y est
déjà, en tout cas, en température ressentie. Emmanuel Dancourt, c'est vrai qu'aujourd'hui, La société se divise en deux, ceux qui ont la clim et ceux qui ne l'ont pas. D'ailleurs, on le voit au bureau le matin, il y a ceux qui sont complètement crevés parce qu'ils n'ont pas dormi, parce que la chaleur, puis ceux qui arrivent frais comme des gardons parce qu'ils ont la clim. Est-ce qu'au moins, il va falloir mettre en France un grand plan clim, mettre en place ce plan?
C'est la vraie question. Je vous rappelle que la dernière canicule, c'était il y a 3 semaines. Donc, elles arrivent de plus en plus. C'est même pas l'année prochaine, Jacques. Elles arrivent de plus en plus. Il va falloir s'y habituer. Et c'est une course-poursuite, en fait, entre... J'entendais Agnès Pannier-Runacher ce matin qui disait mais on fait ce qu'il faut, il y a des plans climat, etc. Sauf que on fait ce qu'il faut, on fait sans doute jamais assez ce qu'il faut. Sauf que le réchauffement climatique va plus vite que tout ce qu'on avait pu anticiper et prévoir. Donc
ça mettait en une journée, ça fait hein, il suffit d'avoir un devis, une facture et puis voilà, être payé
bien,
hein.
Bien sûr mais c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait une volonté politique là-dessus. Et puis indépendamment de la clim, qui est une solution de secours là immédiate en quelques heures et qui peut sauver les cours de nos enfants, la vie au travail, nos nuits, comme tu le disais, il y a tous les bâtiments. Je vais rebondir sur ce que disait Jacques sur le bâti, où il faut vraiment anticiper beaucoup plus que ça le bâti, les bouilloires thermiques, en 2026, mais c'est plus possible. Alors, on va leur mettre la clim, bien sûr, mais ça change rien au bâti, en fait. Donc, ils crèvent de froid en hiver, ils crèvent de chaud en été. Et ça, faut absolument qu'on empoigne ce sujet-là de manière encore plus, plus percutante. On n'a pas le choix, de toute façon. On va pas vivre à l'espagnol, comme on le disait. C'est tellement pas notre culture. Bah, peut-être qu'on va y arriver, hein, si on est chaud bouillant, 50 degrés, tous les étés. Ouais,
peut-être qu'on va arrêter de construire des bâtiments tout en verre, ce genre de choses, en fait.
Tu parles du bâti. Voilà. Ma maison au village, chez ma mère, c'est des briques. Exactement. C'est chaud l'hiver et l'été c'est froid.
Voilà, c'est ça.
Mais vraiment, parce que c'est
une maison en pierre. Aujourd'hui, il fait 22-23 à l'intérieur.
Et puis n'oublions pas que la clim, ça rafraîchit l'intérieur, mais ça réchauffe l'extérieur.
Et ça réchauffe l'extérieur, ça faut le dire.
Oui,
pour
pas,
le CO2,
dis-le à ceux qui sont à l'hôpital actuellement, dans les chambres non climatisées, plein sud.
Ah bah oui.
Et voilà. Et dis-le aux parents d'enfants en bas âge qui peuvent pas aller à l'école
ou
ça n'empêche pas
dans les écoles en prépa.
Ça n'empêche pas. Tu as raison, mais ça n'empêche pas le constat. Ça réchauffe l'extérieur, donc c'est pour ça que c'est sur le bâti qu'il va falloir se battre.
On est avec Vincent. Vincent, il nous appelle d'Herblay, c'est dans le Val d'Oise. Il est contrôleur RATP. Bonjour Vincent.
Bonjour à toute l'équipe, Estelle.
Alors, ça rouspète beaucoup sur la RATP ces derniers jours du côté de Paris, parce qu'effectivement, la plupart des rames de métro ne sont pas climatisées. C'est vraiment un enfer. C'est pareil pour les bus. Vous, en tant que contrôleur RATP, j'imagine que c'est l'enfer aussi pour vous.
Ah, c'est un enfer permanent. En plus, j'ai un problème de santé qui, normalement, devrait pas me permettre d'être à la forte chaleur. Mais bon, on n'a pas le choix, on y va. C'est franchement terrible d'être avec des bus où c'est pas climatisé, quoi. C'est une horreur. Et on n'a pas de point d'eau. On est obligé d'aller deux minutes pour trouver des points d'eau pour se ravitailler. C'est une véritable galère. Et je pense à mes collègues d'après-midi qui sont encore plus exposés que moi.
Alors, je vais faire du mauvais esprit, Vincent, mais on sait que, allez, à la RATP, à la SNCF, on est prompte à dégainer une grève. Je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de droit de retrait, effectivement, pour avoir été dans le métro encore hier soir, mais c'était infernal, quoi. Je veux dire, c'était, franchement, tout le monde suffoquait, etc. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas, justement, de décision prise entre vous, quoi, pour dire, bah non, on peut pas travailler dans ces conditions, en fait.
Bah, c'est difficile aussi de trouver des solutions. L'entreprise nous a mis des serviettes qu'on trempe dans de l'eau, vous savez, qui rafraîchit un petit peu et tout ça. Bon, ils nous ont donné des gourdes, mais bon, si on fait grève, comment les gens vont aller travailler,
Terrestel? C'est vrai. Alors, bah, bravo.
On peut pas non plus sans arrêt se plaindre. Il y a des métiers aussi, je vois les éboueurs, je vois tous ces gens-là, quoi. Donc,
les éboueurs, ils peuvent travailler très tôt. C'est le cas dans certaines communes.
Le BTP.
Les ordures sont ramassées à 6h du matin. Par exemple, c'est plutôt vous à la RATP, le métro, il faut qu'il roule en pleine journée, quoi, en fait.
Et encore, le métro, je trouve que le métro, il fait chaud, mais prenez un bus, vous allez voir, avec la population aux heures de pointe, bien serrée, et le soir, avec, malheureusement, la transpiration, parce qu'on transpire toutes. Faites-le. C'est pour ça, quand j'entends des fois qu'on est des privilégiés, on parle pas dans ces conditions-là, je vous le dis.
C'est vrai. Non, vous avez bien raison. Vous avez un petit ventilateur de poche, Vincent?
Non, même pas. Moi, je suis malheureusement porteur d'un défibrillateur et je suis pas cardiaque et je peux vous dire que la chaleur, j'ai beaucoup de mal, mais bon, faut pas pleurer, puis il faut y aller, et puis c'est tout.
Bah, écoutez, bravo à vous, puis bon courage, Vincent, parce que, les températures vont encore grimper ce week-end en région parisienne. Merci, Vincent, d'avoir été avec nous. On a des témoignages sur le WhatsApp, Charles.
Oui, Cécile qui nous dit, mais pas question, on va pas s'adapter pour quelques jours de canicule chaque année. Si on veut vivre à l'espagnol, on va vivre en Espagne. En tout cas, c'est le témoignage de Cécile. Stéphane nous dit, c'est vrai que moi j'étais à Séville la semaine dernière et c'est difficile, d'aller dîner à 19h. En fait, tout est encore vide. C'est qu'à partir de 21h, 22h que la vie s'anime. Et en effet, même en tant que touriste, on a pris le pli des habitants locaux. On s'adapte, en fait, naturellement aux horaires de la chaleur. Et puis Ludivine nous dit, en France, ce serait impossible. Personne ne veut travailler avec une coupure, je le vois dans la restauration, impossible d'embaucher quand vous voulez un serveur ou un cuisinier. Et s'il a 4 heures de pause dans l'après-midi, je ne vois pas comment les autres commerces pourraient s'y mettre.
Alors, on a Guillaume qui nous appelle de Troche, en Corrèze. Il est chauffeur routier. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Guillaume, vous avez la clim dans votre camion? Oui.
Oui, et puis heureusement, parce que franchement, je vous cache pas que sinon, ça serait compliqué, même si ça s'est fait avec nos anciens, mais... là, avec les chaleurs qui fait, c'est vraiment très chaud. En plus, on a la chaleur du moteur qui remonte. Alors,
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, et puis dans les remorques, quand on est en frigo, ça va, on est bien content de rentrer quand il fait 2 ou 6 degrés, mais quand on est à des cargos normales, on monte comme une voiture fermée, ça fait une étuve, on monte à 50, 60 degrés très facilement. Hein.
Comment vous faites pour dormir dans votre camion, Guillaume? On sait que ça se fait, voilà, quand vous avez un très long trajet à faire, parce que là, pour le coup, la clim, elle peut pas marcher, quoi.
Alors, si il existe, en fait, ce qu'on appelle une clim de nuit, c'est comme une mini-pompe à chaleur qui est derrière le camion et qui nous permet d'avoir le chauffage en hiver ou la climatisation la journée. Moi, j'ai pas de souci parce que je rentre chez moi tous les soirs.
D'accord.
Donc, mais par contre, oui, j'ai déjà fait des longs trajets où j'ai eu besoin, je travaillais la nuit, j'avais besoin de clim et j'étais bien content de l'avoir.
Guillaume, vous imaginez pouvoir vivre à l'espagnol, effectivement, vous coucher plus tard, peut-être faire de longues pauses au milieu de la journée pour pouvoir mieux dormir, justement, adapter les horaires, ce serait possible pour vous?
Alors moi, dans mon métier, non, franchement, ça me paraît compliqué parce qu'il faudrait que tout le monde du travail suit, les entreprises, etc. Bon, nous, après, on travaille à n'importe quelle heure de la journée, donc bon, là-dessus, la question se pose pas. Après, moi, je pense que au niveau de notre pays, ça me paraît assez compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faudrait décaler l'école, il faudrait décaler le travail. Et il faut savoir que en général, les heures les plus chaudes de la journée, ça se situe plutôt entre 15h et 18h. Donc ça sera en début d'après-midi peut-être, mais moi je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il vaut mieux s'adapter en mettant la clim dans les écoles, dans les bureaux, etc. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Faire en sorte qu'on ait des points d'eau à proximité, même si je crois que c'est obligatoire en entreprise. Mais ouais, je pense qu'il faut plus s'adapter de ce côté-là qu'au niveau des horaires, parce que
c'est ça, on va garder notre vie à la française et on va mettre la clim. Merci beaucoup. Guillaume, tiens, justement, en Espagne, c'est à quelle heure l'école, Fred Hermel? Est-ce que c'est plus tôt aussi?
Ça dépend, mais c'est souvent 8h aussi, 8h,
8h30.
C'est comme chez nous, oui. Mais par contre, ça se termine tôt. Ça se termine souvent à 14h ou 14h30, ouais.
D'accord, pour pouvoir, justement, lutter contre les fortes chaleurs. On a Pascal avec nous qui nous appelle d'une ville où il fait, souvent très très chaud. C'est Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Très jolie ville. Il est coordinateur ferroviaire. Bonjour, Pascal.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe.
Bonjour. Coordonnateur ferroviaire, vous allez avoir du boulot ces prochains temps parce qu'on sait que dans le sud de la France, quand il commence à faire très très chaud, il y a quand même des petits problèmes du côté de la SNCF, hein, Pascal.
C'est ça, alors moi je suis dans le privé, hein. Je suis sur la ligne Marseille-Nice, le nouvel opérateur privé. Mais bon, on est dans les mêmes conditions pour tout le monde.
Pascal, est-ce que vous dites on doit vivre à l'espagnol ou est-ce que vous dites on garde la vie à la française et on met de la clim partout?
Non, je pense qu'il faudrait aller à l'espagnol, ça serait pas possible. Il faut qu'on puisse toujours avoir des points de fraîcheur. Je pense surtout à nos aînés, aux personnes âgées, qui malheureusement pour certains n'ont pas la clim. Donc quand ils vont dans les magasins l'après-midi, ça leur permet justement de pouvoir se rafraîchir un petit peu. Je pense qu'on devrait avoir un grand plan national, parce que c'est vrai que chaque année on en parle et puis bon, il y a rien qui bouge. On devrait avoir un grand plan national, je pense, pour les écoles, pour que les petits puissent pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que comme Jacques tout à l'heure l'a dit, ça va être de pire en pire. Ouais. Donc en fait, il faut qu'on adapte nos écoles et qu'on puisse accueillir nos enfants correctement. Et après, par contre, ce qu'il faut faire, bon, moi j'ai la chance d'être en opérationnel, mais dans un bureau, donc j'ai la clim, donc il n'y a pas de sujet. À la maison, c'est vrai que les nuits sont difficiles, mais malheureusement, on doit s'adapter, on n'a pas le choix. Par contre, pour tous les métiers, c'est vrai qu'ils travaillent dehors, le bâtiment, tout ça, il devrait y avoir une loi, et en fait, on devrait interdire à partir de midi, vous voyez, c'est-à-dire qu'on autorise le travail de 6h à midi, et puis à midi,
terminé, 6h, c'est tôt.
Ces gens-là, ils sont très exposés, quoi, vous voyez.
Oui, mais 6h, c'est tôt quand même. Pascal, est-ce que ça vous fait rire, vous êtes à Aubagne, donc vous avez l'habitude de la chaleur, quand vous voyez les habitants, les Parisiens, on va dire notamment, qui suffoquent, est-ce que vous dites, c'est quand même pas très compliqué, il suffit de fermer les volets, de boire un peu, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous les comprenez et vous les plaignez?
Non, je les comprends, c'est pas évident. Et le plus difficile quand on travaille, c'est pas tellement la journée, en fait, Estelle. Parce que la journée, vous êtes confronté à la chaleur, c'est comme ça. Le plus difficile, c'est de récupérer la nuit. Et c'est là où on n'arrive pas à dormir et le corps a du mal à récupérer. Et sur la durée, c'est compliqué. Non, je les comprends, mais malheureusement, il n'y a pas qu'au Bagne, hein. Ça va être toute la France qui va être confrontée. Il faut qu'on essaye de trouver des solutions communes pour essayer de d'avancer et de pouvoir souffrir le moins possible. Mais je pense pas que vivre à l'espagnol... Vous voyez, par exemple, nous, les trains, les gens, ils vont au travail, il faut les ramener. C'est un service public, on peut pas dire on arrête les trains à midi et puis on reprend à 18h. Vous voyez, vous aurez plein de métiers comme ça où, malheureusement, on pourra pas le faire. Hein.
Pascal, vous avez un petit truc à nous partager, tiens, pour mieux dormir de la nuit, justement, quand il fait chaud?
Quand il fait chaud, c'est les solutions un petit peu des grands-parents, hein, c'est-à-dire on met quelques glaçons dans un tupperware ou dans un bol qu'on met devant le ventilateur et ça vous fait un petit peu plus d'air frais, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions.
Non, mais ça c'est déjà une petite solution sympathique. Merci beaucoup en tout cas, Pascal, d'avoir été avec nous. Allez, on termine rapido avec Christian qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Christian.
Bonjour à tous, bonjour l'équipe.
Bonjour. Et vous vouliez nous parler d'une nouvelle école maternelle dans votre ville. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, Christian, cette école maternelle ?
C'est un village de 1100 personnes. Une nouvelle école maternelle doit être construite.
Ouais.
Les projets datent de à peu près 4-6 ans.
Mmh.
On a une réunion publique la semaine dernière qui nous disait que bon, le budget est à peu près de 2,3
millions, ouais,
avec 400 000 euros pour la commune. Et en fait, on apprend qu'il y a quelques ventilos et aucune clim de posée.
Ah.
Voilà. Les travaux commencent en septembre pour 14 mois. On comprend rien. On ne sait pas ce qui se passe.
Il va falloir adapter.
Mais oui, mais cela dit, Christian, si les travaux n'ont pas démarré, ça doit encore être possible de mettre la clim, quoi.
Vous savez, ça dépend de l'équipe dirigeante de la mairie, quoi. Quand les gens, ils acceptent pas d'écouter les autres et que personne remet en question, on en est là. En fait, les informations arrivent très tard, comme ça, la réaction du peuple, c'est pas possible, quoi.
Mais c'est vrai que ça paraît fou aujourd'hui de construire encore des écoles, des bâtiments publics sans mettre la clim. Ça paraît complètement dingue. Bah écoutez, battez-vous, Christian. En plus en Dordogne il fait très chaud, donc et essayez d'obtenir la clim. À mon avis, si tout le monde se mobilise, sous les parents, peut-être que les travaux peuvent être décalés et peut-être que la clim peut être posée, parce que
ça marche pour les deux, quoi. Pour l'hiver et pour l'été, pour la chaleur et pour le froid. Donc voilà, c'est.
Et puis, avec ce qu'on vit en ce moment, je pense que ça doit inciter les élus à prendre des décisions différentes.
Bah c'est ça l'idée, avoir une grande concertation et peut-être un plan de grande ampleur en France. Merci beaucoup. Christian, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Charles.
Mais oui, les horaires de travail, la sieste, la clim, est-ce qu'il faudrait vivre à l'heure espagnole ? Vous avez répondu oui à 65%. Mais oui, le modèle espagnol séduit. Et puis si vous voulez échapper à la chaleur, il y a Fred qui nous écrit sur WhatsApp. Venez tous dans le Finistère, là, il fait 19 degrés à Brest en ce moment.
J'y vais tout à l'heure et je suis très contente. Voilà, 21 degrés demain, j'y vais avec une petite laine. Oui. On n'est jamais trop prudent.
J'ai eu aussi des messages qui disaient là où il fait le plus frais en France, c'est dans le manoir breton d'Estelle.
Il est en travaux, il n'y a pas de toit, donc effectivement, l'air circule, il y a à peine des murs, donc il n'y a aucun problème. Et les fenêtres ne sont pas posées. Donc, écoutez,
les fantômes, ça fait de l'air. Hein.
En plus, dans un instant, on va parler d'une tribune parue dans le journal Le Monde, un collectif qui dénonce les méfaits de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous passer de l'intelligence artificielle ? Que faites-vous avec l'IA ? Écoutez, on en parle dans un instant au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, toujours avec Jacques Legros, Fred Hermel, Emmanuel Dancourt et Charles Magnin. Et on va tout de suite s'intéresser à la tribune du jour. Et c'est celle dans Le Monde, d'un collectif d'écrivains, d'élus et de scientifiques qui dénoncent l'emprise de l'IA sur nos vies, paresse intellectuelle, destruction d'emplois, désastre écologique. Les signataires de cette tribune appellent au boycott de l'intelligence artificielle. Enfin, Charles, c'est quand même pas gagné. Hein.
Ah bah non, hier soir encore sur France 2, Emmanuel Macron s'est félicité que la France soit le pays d'Europe qui a créé le plus d'emplois, le plus de start-up en matière d'IA. Et quasiment tout le monde s'y est mis. Hein. Selon un sondage Elab, 2 Français sur 3 utilisent déjà régulièrement l'IA. Un usage qui varie selon les générations. Hein. Chez les moins de 25 ans, 90% ont recours à l'IA. Alors que chez les plus de 50 ans, c'est encore 1 Français sur 2 qui s'y est mis. Les Français l'utilisent, mais ont un regard critique, voire méfiant sur l'IA. Hein. 44% considèrent qu'elle constitue une vraie révolution, comme a pu l'être l'arrivée d'Internet. Mais 54% la perçoivent d'abord comme une menace. C'est d'ailleurs le sens de cette tribune, signée par 150 personnalités culturelles, les écrivains Hervé Le Tellier, Annie Ernaux, l'auteur de BD Enki Bilal, qui dans cette tribune donc dénonce le coût écologique de l'IA, mais surtout le danger qu'elle fait courir à nos cerveaux. Utilisés de façon intensive par la jeunesse, les robots affaibliront nos capacités cognitives et créeront de redoutables dépendances émotionnelles. En fait, ce sont peu ou prou les mêmes critiques que celles qui visent les réseaux sociaux, dont nous avons pris conscience des dangers avec 15 ans de retard, disent-ils. C'est pourquoi ils appellent aujourd'hui au boycott de ces IA génératives.
Alors, paresse intellectuelle, destruction d'emplois, faut-il boycotter l'IA ? Jacques Legros, est-ce que vous en servez ?
Je m'en sers sans le savoir.
Ah. C'est-à-dire
oui, forcément. Mais bon, aujourd'hui, on injecte de l'IA un petit peu partout. Je voyais un sujet aux informations à la télé, des l'IA dans le sol des métros pour savoir combien il y avait de passagers à bord, etc., pour réguler un peu la circulation. Bon, ben voilà, c'est pas moi qui l'ai installé. Non,
mais est-ce que vous avez installé ChatGPT, par exemple, sur votre téléphone?
Non, mais on s'en sert, pas moi directement, mais on s'en sert, notamment pour élaguer quelques questions, trouver des réponses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais tout progrès entraîne des frayeurs, des peurs. Cela dit, quand je vois les signataires de l'article, qui sont plus staliniens qu'autre chose...
Mais c'est tellement ça.
Mais Annie Ernaux, excusez-moi, mais je ne vois pas en quoi elle a un avis sur l'IA.
Bon, enfin, elle a le droit d'avoir un avis, enfin, écoutez...
Elle écrit magnifiquement bien, mais oui, qu'elle continue à écrire et qu'elle arrête d'aller pleurer dans le journal Le Monde.
Enfin, elle a le droit d'avoir un avis. Enfin, je veux dire, c'est une tribune.
Elle a même tous les droits.
Voilà.
Mais moi, je ne la crois pas. Voilà, c'est tout.
Mais moi, je trouve qu'en tant qu'écrivain, elle a raison de s'inquiéter des dangers de l'IA. Hein. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de livres qui paraissent chaque jour écrits par l'IA. Mais... Donc, Annie Ernaux, elle est écrivain, elle peut s'inquiéter.
Eh ben, alors, si on a peur d'avoir de la fièvre, c'est simple. On casse le thermomètre.
Non, mais d'accord, mais Jacques, en tout cas, bon, elle a le droit de
s'exprimer.
C'est un grand nom de la littérature française.
Mais elle a tous les droits, mais arrêtons, on a toujours peur de tout. Mais il suffit d'apprendre à maîtriser. Il faut toujours apprendre à maîtriser plutôt que casser, dénoncer, etc. Ben oui, mais c'est vrai en tout. C'est vrai en tout.
Le nom que je trouve intéressant dans la tribune, moi, c'est celui d'Hervé Le Tellier. Souvenez-vous, il y a à peu près un an, il y avait eu un concours entre, est-ce que c'était ChatGPT ou Neutria, je ne sais pas, et lui, il avait écrit une nouvelle et ils avaient demandé à cette IA de créer une nouvelle à la manière d'Hervé Le Tellier. Et les critiques littéraires, eh ben, s'y sont pas toujours retrouvés, tellement c'était bien fait. Alors, elle avait été alimentée, cette IA, tellement c'était bien fait et clairement, ça foutait la trouille. On va pas se mentir. Moi, j'ai des enfants, je sais pas si c'est ma génération, enfin, la génération de mes enfants ou pas, qui sont vent debout contre l'IA. Et mes parents, ils ont
c'est
eu
vos enfants,
mal.
Oui.
Ah bon?
Ah oui.
C'est
mes autres, non, les autres enfants ne sont pas vent debout contre
mes
l'IA.
Mes parents ont eu le malheur sur notre groupe WhatsApp familial d'envoyer un petit truc sympa sur Insta. Et alors là, j'ai mon neveu qui est monté dans les tours en disant, mais ça, c'est fait par l'IA, papy, tu ne peux pas. J'ai vu tous mes gamins rappliquer.
Bah non, mais ça, ils ont raison de se méfier.
Tous mes gamins rappliquer. Non, mais pour dire.
Mais il faut leur devoir avec
ça. Ça réchauffe la planète, ça n'est pas possible. On spolie des gens à qui on a emprunté. C'est un montage photo de Dijon à l'ancienne. On spolie des gens parce qu'on leur rend pas leur qualité d'auteur ou d'autrice de ces photos, etc. Et j'ai vu mes neveux et tous mes enfants arriver sur le film. J'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est eux, moi, qui m'éduquent. ChatGPT, on a vu un débat il y a quelques mois ici. J'étais la seule à avoir jamais été sur ChatGPT. Je me suis sentie un peu nulle. Donc, je me suis dit, va avoir un peu de ChatGPT. Et maintenant, genre celui-là ou un autre, hein, des fois, il m'arrive de poser une ou deux questions, mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai une amie qui entretient une conversation passionnelle, comment dire, relation.
Ouais.
Elle le vouvoie, comme si c'était un monsieur, alors que moi, je le traite comme un esclave.
Tout, hein. Et il me dit, t'es relou et tout.
Ah oui, alors moi, je le traite comme un esclave. Hein. ChatGPT, les quelques rares fois où je lui demande
comme
un truc.
Il n'est pas si bête.
Alors, c'est important parce que souvent, on compare ces IA. Alors, on cite ChatGPT, on pourrait parler de Claude, du chat, de Mistral, etc. C'est pas des robots comme les autres. C'est pas l'ordinateur qu'on avait. Non, mais surtout, c'est un robot auquel on dit bonjour, auquel on dit merci, auquel certains ont une relation quasi.
Alors, vous direz pas merci à Google.
Non, mais vous dites pas merci au distributeur quand vous tirez de l'argent. C'est ce que je veux dire.
Moi,
à la caisse automatique, vous lui dites pas bonjour.
Moi, si, je dis bonjour. Non,
pour rester sur cette amie, elle échange en le vouvoyant, en l'appelant monsieur. Et ouais, c'est exactement ça. Ils ont une espèce de forme d'intimité qui, moi, me sidère et me fait trop
peur. On n'est pas obligé d'être con, hein.
Bah non, mais. Moi, j'ai une amie. Elle se dispute avec son copain, elle envoie des captures d'écran de ses disputes et elle demande à ChatGPT déjà un de répondre parce qu'elle est en toupie et deux qui a raison. Et comment faire pour répondre
moi,
ou, qu'est-ce qu'il veut dire ou est-ce que tu crois pas qu'il y a, anguille sous roche parce qu'il a pensé à ça
ouais, mais c'est ce qu'il faut, c'est demander à l'appli de pas forcément répondre comme tu répondrais toi. Moi, des fois, je lui dis challenge-moi, réponds pas comme moi je répondrais. Quoi.
C'est les habitudes des réseaux sociaux, moi, bref, on va pas venir là-dessus. Mais l'IA va permettre de faire des progrès considérables dans la recherche.
En médecine.
Moi, c'est la recherche qui m'intéresse.
Mais en sport
la recherche est notamment
dans cette
en
tribune,
médecine.
Ils disent oui, allons-y à fond dans la recherche, etc. Oui. Tous les progrès techniques et technologiques. Là où ils s'inquiètent, c'est sur les IA conversationnelles. Ce sont nos conversations avec ces IA qui deviennent dangereuses, intimes, qui nous empêchent aussi de réfléchir, qui créent des cerveaux peut-être un peu plus flemmard, pose moins de questions, plus paresseux, il s'inquiète en disant, il y a 15 ans, on disait la même chose sur les réseaux sociaux, et 15 ans plus tard, on se dit, oh là là, il faut les interdire aux jeunes, et ceux qui, il y a 15 ans, disaient, attention à TikTok, Instagram et tout ça, et on leur disait, mais non, c'est l'avenir, c'est le sens de l'histoire, il faut y aller.
Après, il y a des domaines dans lesquels ça marche très bien. Avec Charles, en ce moment, on prépare une course, et en fait, notre coach, chacun de son côté, c'est ChatGPT, et ça nous challenge, etc., ça nous donne des plans d'entraînement, et effectivement, moi, je me retrouve.
La course pour dire que ça marche très bien.
Oui, non, mais en tout cas, moi, je me retrouve à parler à ChatGPT en disant, j'ai fait ça, tiens, j'ai eu un peu mal là, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et effectivement, en le tutoyant, et comme si c'était mon vrai coach, mais sauf que je peux lui parler à 11h du soir, à 6h du matin, et il est toujours là pour moi. Et surtout, il est gratuit. Fred Hermel, est-ce que vous êtes mis à l'IA, vous étiez très réfractaire au départ, Fred.
Moi, je suis réfractaire à toute nouvelle technologie. Je suis pas un geek, moi. Mm. Mais une fois que c'est là, je l'utilise. Et moi, je n'ai pas du tout de rapport sentimental avec l'IA.
Alors,
je
ne
dis
pas vous,
je dis pas merci. Non, je dis quelle heure le match France-Irak.
Oui, c'est assez basique.
Oui, mais basique. Ça, c'est les mêmes questions que Google.
Mais c'est pareil. Moi, je l'utilise comme Google.
Ah, tu ne le tutoies pas.
Je ne tutoie pas. Moi, c'est un outil. Je l'utilise comme un outil qui est formidable.
Ça, c'est Google.
Ça marche très bien. Mais pour moi, c'est du Google amélioré. Moi, la manière dont j'utilise pour des questions médicales, quand j'ai une question médicale, quand j'ai par exemple
un. Genre, t'as un bouton et tu lui dis, à ton avis, c'est grave.
Non, mais par exemple, des résultats pour comprendre des choses, voilà.
Bah déjà, si c'est en gras, c'est mauvais signe.
Oui, voilà. Pour essayer de comprendre des choses, et là, je pose des questions basiques, tel truc, se passe. Voilà, c'est intéressant. Mais regardez, l'autre jour, par exemple, il y avait le match préparatoire France-Côte d'Ivoire. Mm. Je reconnaissais pas le stade. Donc je lui dis, c'est dans quel stade se joue la Beaujoire? Ah oui, à Nantes, voilà. En fait, pour moi, c'est ça.
Mais c'est l'usage.
C'est Google qui ne va pas plus loin.
Ce que tu peux faire avec l'IA, c'est lui dire, tiens, ce week-end, je ne sais pas ce qu'il y a comme match de la Coupe du Monde, lequel tu me conseilles.
Charles, j'explique comment moi. Mais
tu n'es pas encore rentré dans l'IA, en fait.
Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Pour moi, c'est un outil à mon service. Moi, je n'ai pas besoin. C'est pour ça que je dis, je connais toutes les possibilités de l'IA. Mais moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un chercheur. Je ne l'utilise pas dans mon métier. Pour moi, c'est un Google amélioré qui répond facilement et ça va vite.
Tu dis souvent dans cette émission que quand tu pars en vacances, ce que tu aimes, ce sont les bars des hôtels.
Oui, typiquement,
l'IA, tu peux lui dire, je pars en Italie cet été, trouve-moi les 5 meilleurs bars d'hôtels, je cherche avec un budget de ça.
Voilà. Et bien sûr. Mais c'est un outil. Je ne sais pas s'il te plaît, je fais les 5 meilleurs bars d'hôtels à Rome.
Moi,
je l'utilise comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dépassé par l'IA. Je n'ai pas de relation humaine avec l'IA parce que c'est une machine. C'est simplement un Google amélioré qui me donne une réponse très rapide. Voilà.
Julien est avec nous. Il nous appelle des Landes. Il est ingénieur en prévention dans les assurances. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour.
Julien, est-ce que vous avez une...
Fred vient de passer à Internet, c'est bien.
Julien, est-ce que vous avez des craintes, vous, par rapport à l'IA?
C'est plus que des craintes, puisque aujourd'hui, dans toutes les grosses boîtes, aujourd'hui, que ce soit bancaire, assurance, etc., aujourd'hui, on a bloqué toutes les embauches parce que les entreprises investissent énormément sur l'IA.
Ouais.
Et pour savoir quel poste à remplacer. Donc, toutes les embauches là sont stoppées. Donc l'année 2026, je pense que le chômage va bien déjà augmenter et de ce fait-là, parce qu'on n'investit plus sur l'humain, mais sur l'IA, parce qu'il y a des grosses rentabilités et des retours positifs pour les entreprises, notamment aux États-Unis, où on a déjà viré à peu près 6% des effectifs.
Ouais, c'est énorme.
Donc c'est énorme, et on n'est qu'au début de ce qu'on peut faire avec l'IA. L'IA a évolué en 6 mois, en fait, entre ChatGPT et la version de Claude, par Trump, justement, parce qu'elle est tellement puissante que on peut tout faire. Et il y a des possibilités qui sont énormes, et dans tous les domaines. Aujourd'hui, vous avez des avocats qui me disent, je réponds avec l'IA, et je sais que l'avocat d'en face me répond avec l'IA, et en fait, c'est une bataille d'IA. Donc en fait, les avocats déjà, ils ont déjà fini. Les comptables sont finis. Les coachs sportifs, votre coach sportif Estelle, il doit pleurer parce que il a mangé des patates longtemps.
J'en avais pas un fixe. Bien sûr.
En fait, vous avez énormément de postes qui vont disparaître. Mmh. Et en fait, il va se passer. Tout le monde pense que c'est une évolution d'Internet. Et en fait, pas du tout. C'est une révolution. C'est comme Internet dans les années 2000. Mmh. C'est-à-dire que dans les années 2000, on faisait rien sur Internet. On avait un vieux modem. Il fallait un on avait un contrat de 20 heures qui coûtait une fortune, machin. Maintenant, on est à la fibre. Et en fait, vous voyez bien qu'on paye nos impôts sur Internet. Toutes les démarches administratives se font sur Internet, etc. Aujourd'hui, sans Internet, même des personnes de 80, 90 ans, ils peuvent pas vivre. Et toutes leurs démarches sont faites sur Internet. On commande sur Internet, on reçoit Amazon sur Internet. Enfin, je veux dire, aujourd'hui,
on n'imaginerait pas vivre sans Internet. On pourrait plus vivre sans Internet. C'est impossible.
Et en fait, la révolution qui va se passer avec l'IA, bah, c'est la même révolution qui s'est passée avec Internet, mais en plus rapide. C'est-à-dire que dans les années 2000, on ramait comme c'est pas permis jusque dans les années 2010, on va dire. Ça a mis 10 ans à se mettre en place. Et là, en fait, on voit que l'évolution et l'IA apprend par elle-même tous les 6 mois, elle double sa capacité. Fait, la seule limite qui va se poser, ça va être la quantité d'énergie, parce que c'est énergivore, donc...
Ouais, grand consommateur d'eau.
En fait, voilà, et d'électricité, et d'eau. Après, Elon Musk est en train de mettre des data centers dans l'espace. Enfin, il se passe des trucs, on n'a pas idée, quoi. On
est
en train de mettre des data centers sous l'océan. Là, Google est en train de mettre des data centers sous l'océan. Donc, c'est vraiment quelque chose.
C'est une révolution. Merci Julien, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et vous avez raison sur le fait que ça aille très vite. Il y a 2 ans, Anthony Morel est venu nous présenter ChatGPT ici même sur ce plateau, 12h50. Et je me souviens lui avoir dit, mais pff, n'importe quoi, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça ne marchera jamais. Comme quoi, j'ai été visionnaire. Mais c'est vrai qu'en fait, ça paraissait hyper bizarre. Il disait, bah, tu peux lui poser n'importe quelle question. Et il fait plein de choses. Et pff,
je disais, on a déjà Google.
Ouais, et c'était à moitié en noir et blanc, un peu, voilà.
Il y a un métier qui va disparaître, c'est le traducteur.
Ah bah, ça a déjà disparu.
Parce que moi j'ai un ami qui va envoyer son communiqué de presse qu'il avait écrit en espagnol qui va être traduit en français. Il me dit bon, je l'ai passé par ChatGPT, est-ce que tu peux regarder? Mais c'était dans un français nickel, bien écrit. Il y avait une erreur d'incompréhension, un malentendu, c'est tout, sur un texte de 50 lignes. Et que voilà, donc là tu te dis
sur les notices par exemple, pour les appareils ménagers, etc. Fini. Avant il y avait des traducteurs,
bien sûr.
10 ans on traduisait la notice dans maintenant ça se fait lire sur un roman.
Voilà, sur un roman, c'est alors
tu traduis le rouge et le noir, il y a quand même un peu son.
Et puis même il y a un écrivain qui a dit un jour l'IA ne pourra jamais écrire de roman parce que l'IA n'a pas de blessure d'enfance. Mais je pense qu'un jour peut-être que l'IA saura s'inventer des blessures d'enfance.
Mais c'est un métier, traducteur de notices. Il y a un autre métier qui va disparaître, c'est le doublage. C'est les doubleurs et les doubleuses, c'est dramatique.
Ah oui, parce que tu vas pouvoir avoir un film avec Brad Pitt, avec la vraie voix de Brad Pitt
en français.
Donc c'est un métier
qui est...
Oui, mais paradoxalement, comme on voudra pas voir ça, on se mettra à écouter la voix originale parce qu'on n'aimera pas
très juste, et puis il n'y aura peut-être pas l'émotion. Enfin bon,
mais l'IA change des vies. C'est ce qu'on nous raconte Mehdi, qui nous dit l'IA a changé ma vie. J'ai pu me former grâce à l'IA en marketing digital gratuitement depuis chez moi, et ça m'a permis de changer de métier, nous raconte Mehdi. Sofiane aussi, qui nous écrit sur WhatsApp, j'utilise ChatGPT pour tout maintenant, que ce soit ma recette de tiramisu, pour améliorer mon sommeil, pour organiser mes révisions, pour mes études. Donc pour moi, boycotter l'IA n'aurait pas de sens. Et puis j'ai Bernard qui nous dit, je regarde ma fille faire et je la trouve très polie quand elle parle à l'IA, beaucoup plus qu'avec nous d'ailleurs. Et je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit je préfère être gentille, car le jour où les robots prendront le contrôle, ils se souviendront de qui a été gentil avec eux.
Je suis d'accord avec elle, elle a bien raison. Moi aussi je dis merci s'il te plaît.
En attendant, faut-il boycotter l'IA? Vous avez répondu non à 73%.
Dans un instant, dans Estelle Midi, le rendez-vous des notaires, on parlera de transmission et puis le zapping, le meilleur d'RMC. Tiens, on se demandera, ça c'est bien la première fois que ça arrive, le bac était-il trop dur cette année? Sachez que... Il y a des étudiants de terminale qui se sont plaints parce que l'épreuve de physique, elle était trop dure, Jacques. On en parlera dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis. 12h51, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est vendredi et le vendredi, c'est le rendez-vous des notaires.
RMC, Estelle Midi,
les notaires vous répondent. Et nous sommes avec Maître Olivier Piquet, notaire à Longjumeau et 3e vice-président du bureau du Conseil supérieur du notariat. Bonjour Maître.
Bonjour Estelle Denis.
Nous avons une question de Louis, 59 ans, qui nous dit « Mon fils de 35 ans souhaite acheter un appartement. Je veux l'aider en lui donnant une somme assez conséquente, mais je crains de manquer de ressources financières plus tard. Comment faire pour organiser la transmission tout en protégeant ma sécurité financière ?»
Bah écoutez, c'est une belle question et je suis très content que vous la posiez à un notaire et pas une intelligence artificielle, pour rebondir sur votre sujet précédent. Il aurait sans doute eu des réponses, mais la question étant, comme je vous le dis, belle et un peu compliquée, les réponses, je suis pas certain qu'il aurait eu les bonnes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse toute faite pour Lucien. Il dit « mon fils de 35 ans, donc je suppose qu'il a un fils unique ». C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de débat à se poser de savoir s'il donne la même chose aux autres enfants ou pas, puisqu'il en a qu'un. L'inconvénient, c'est que quand on n'a qu'un enfant, on a un seul abattement de 100 000 euros pour transmettre en franchise de droits de donation. Donc, en fonction du patrimoine, ça peut le patrimoine à transmettre peut se retrouver assez vite taxable et générer des droits de succession ou des droits de donation importants. La question de savoir combien donner et comment préserver sa sécurité, elle est effectivement au cas par cas. Quelle est la composition du patrimoine de Lucien? Est-ce qu'il a beaucoup d'immobilier? Est-ce qu'il a plus de placements financiers? Est-ce qu'il a des biens immobiliers qui lui procurent des revenus? Est-ce que la somme qu'il veut donner à son fils, c'est un capital brut ou un revenu?
Imaginons, maître, pour faire simple. Imaginons, Lucien veut acheter un appartement qui vaut 300 000 euros. Donc vous dites, en fait, il peut donner 100 000 euros à son fils.
Alors il peut donner 131 000. En fait, il y a 100 000 en abattement général et 31 865 en somme d'argent précisément.
Alors est-ce qu'il peut donner cette part-là de son appartement à son fils ? Et dans ces cas-là, son fils, quand il va décéder, bah, il a cette part-là gratuite, quoi.
Il a cette part-là, effectivement, en franchise de droit. Alors 131 865, c'est si on va en somme d'argent.
D'accord.
Si on se limite à l'appartement, ce sera 100 000 et pas 131 865. Donc effectivement, il peut donner ça. Et ce qui dépasse, il se retrouverait taxé à 20%. Donc ça peut être quand même pénalisant. Donc c'est pour ça que la question, c'est de savoir est-ce qu'il peut se prémunir. La question, c'est aussi d'anticiper. Je crois que votre auditeur, il a 59 ans, donc il peut avoir une estimation assez raisonnable de sa retraite. Donc c'est de voir quels vont être ses besoins à sa retraite, d'essayer de se dire, je me mets dans la situation la pire, je vais être en mauvaise santé, je vais rentrer en maison médicalisée. En fonction de la région où il est, ça va lui coûter, je dis n'importe quoi, 2500, 3000, 3500 euros par mois. Quel est son niveau de retraite?
Attendez, à 50 ans, on commence pas à penser à l'EHPAD quand même. Excusez-moi, c'est un peu tôt. Pardon,
et ben, malheureusement, pour se démunir, il faut penser à ça.
Ah oui, d'accord.
Pour savoir, pour anticiper.
Ah oui.
Il faut anticiper pour ne pas se retrouver effectivement en difficulté. Parce que si on donne aujourd'hui et qu'on se retrouve dans la difficulté demain, certes, on a l'obligation, on appelle l'obligation alimentaire. Mmh. C'est-à-dire que le fils va devoir venir au secours de son père, mais c'est pas le but. Si c'est lui donner aujourd'hui pour que demain il l'aide, ça sert à rien. Donc effectivement, notre boulot, c'est prévoir effectivement l'avenir et la situation la pire. Parce que je veux dire, si on prévoit le meilleur, on se tape dans la main, tout va bien.
Ça ne marche pas. En tout cas, voilà. Louis, ce qu'il faut qu'il fasse, et comme nous tous d'ailleurs, c'est d'aller voir un notaire pour essayer.
Exactement, pour qu'on voit sa situation complète.
Exactement, car chaque situation, évidemment, est différente et on sait que la succession, c'est souvent quelque chose d'extrêmement complexe. Merci beaucoup, maître, d'être venu sur le plateau d'Estelle Midi. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On va se demander si le bac était trop dur cette année. C'est bien la première fois qu'on se pose cette question depuis le début d'Estelle Midi. On va vous demander si vous préférez un meilleur salaire ou du temps libre. Et puis, est-ce qu'il faut licencier les consommateurs de drogue en entreprise? Vous savez qu'il va y avoir des tests anti-drogue dans les entreprises. Donc, est-ce que si on voit que quelqu'un est positif, est-ce qu'il faut le licencier ou pas? On en débat avec vous dans un instant dans Estelle Midi.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.